Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Alors, cette lecture, elle se situe dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5. Alors, c'est un texte qui est très connu. Peut-être vous pourriez le réciter de mémoire, je ne sais pas. Alors, on va voir ça ensemble. Et puis ensuite, nous ferons une autre lecture dans le Nouveau Testament. On y reviendra dans quelques instants. Alors, l'originalité de notre méditation ce soir, eh bien, c'est tout simplement de fortifier notre foi, de construire notre foi, de nous donner, eh bien, comme nous le faisons très, très fréquemment, c'est de nous fortifier en espérance, puisque la Bible est avant tout un livre d'espérance. Alors voilà ce que Jésus nous laisse, Matthieu chapitre 5, verset 1er. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, c'est-à-dire les doux, les humbles, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Et réjouissez-vous. Et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Voilà pour cette situation. Dans cette introduction, je veux simplement placer le principe de notre méditation ce soir. Alors, on l'a appelé, ça fait partie du sermon sur la montagne, on a appelé ce texte les Béatitudes. On les retrouve également dans Luc, dans Matthieu et dans Luc. Et béatitude, c'est tout simplement, si vous voulez donner un synonyme, c'est bonheur. Tout simplement, bonheur. Et ces béatitudes décrivent tout simplement la félicité, comme Jésus en parle, c'est-à-dire un état moral intérieur de joie et de paix, tout simplement à l'intérieur de nous-mêmes. Et cette joie et cette paix de cette nature, eh bien, sont incapables tout simplement d'être affecté par les circonstances de toute nature, et bien là, d'adversité. Et Jésus parle à la fois de ce bonheur, non pas d'être persécuté, d'avoir faim et soif, d'être honni des hommes, rejeté, réduit à toutes les injustices, d'être, comme il le dit, et bien voilà, tout simplement, en proclamant la paix, et bien d'être repoussé, voire même emprisonné. Mais il souligne finalement eh bien, ce qui peut être vécu dans des circonstances contraires de la vie. Et c'est bien ça l'évangile. L'évangile d'ailleurs, ça veut dire tout simplement dans son étymologie en grec, ça veut dire bonne nouvelle. Alors bonne nouvelle, si tout va bien, c'est bien. Mais justement, c'est avant tout une bonne nouvelle quand tout va mal. Quand les choses sont difficiles, lorsque nous traversons des épreuves, lorsque nous sommes méconnus ou rejetés, critiqués, enfin toutes sortes de choses de cette manière. Et voyez-vous, je crois qu'on peut dire que Jésus laisse à ses disciples eh bien tout simplement des perspectives pour le futur, pas seulement pour cette vie, mais également pour une autre dimension. Des perspectives futures, ce sont des promesses divines de consolation. D'ailleurs, on l'a vu, hein. Heureux, parce que finalement, eh bien, à travers toutes ces vicissitudes, à travers toutes ces oppositions, ces adversités, eh bien, sachez que je suis avec vous, et que, à travers tout cela, eh bien, vous en serez vainqueurs, et que non seulement vous allez en être vainqueur, vous triompherez, mais la paix ne se départira pas de votre âme, de votre cœur. Elle ne pourra vous être enlevée. Et être joyeux dans les moments difficiles, dans l'adversité, c'est pas forcément simple. Et à travers, tout simplement, eh bien, cet exposé, j'aimerais justement parler de la grâce d'être heureux. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes venu heureux ce soir. Hein? Bon, j'espère, vous me faites des grands sourires. Donc, je suppose qu'il y a quand même un petit peu de bonheur dans votre vie, mais peut-être c'est bon de rappeler toutes ces choses. Vous savez que dans l'évangile de Matthieu, excusez-moi, je suis un petit peu en rouet ce soir, dans l'évangile de Matthieu, le texte que nous avons lu, eh bien, il y a environ une dizaine de béatitudes qui nous sont présentées. Ensuite, puisque je vous en ai parlé, l'évangéliste Luc, eh bien, en relève 4, tout simplement. Eh bien, ces béatitudes, lorsqu'elles sont étudiées, lorsqu'elles sont prises en considération, eh bien, elles expriment les qualités et les caractères moraux des enfants de Dieu, ce que nous sommes parce que nous croyons en Dieu, parce que nous sommes disciples de Jésus-Christ, parce que nous nous revendiquons, eh bien, du salut, tout simplement en Jésus, et nous avons accepté sa parole comme autorité de notre vie et de notre foi, ce qui nous donne la force. Quelles que soient les circonstances et les situations, eh bien, le support de la souffrance. De toute nature, hein. Ça peut être tout simplement et indépendamment des hommes, ça peut être une souffrance physique, la maladie par exemple, ou toutes sortes d'infirmités. Et puis, toutes les injustices, ça c'est plutôt une souffrance morale, à caractère moral. Quand vous êtes critiqué, lorsque vous êtes accusé injustement, ça fait véritablement très très mal. Donc, c'est une espérance qui nous est présentée. Je voudrais aller un peu plus loin dans cet exposé. Il y a d'autres béatitudes dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous les avez remarquées. Il y en a dans l'Ancien Testament, mais peu. C'est surtout, eh bien, là, avec la venue de Jésus et puis avec la proclamation de l'Évangile, que nous voyons apparaître, eh bien, ces béatitudes, ces promesses de consolation. Et je crois que c'est bien d'y revenir de temps en temps, et elle témoigne naturellement du privilège de ce que nous apporte la foi en Jésus. Nous ne mettons pas notre espérance en quiconque d'autre. Nous ne mettons pas notre espérance dans les hommes, ou dans nos possibilités, dans nos moyens, ou voire même peut-être recourir à nos expériences du passé où nous nous en sommes sortis, en disant, bien voilà, il y avait telle et telle chose. Ce sont des choses qui peuvent servir, naturellement. Mais je veux dire qu'il y a parfois des situations où on peut puiser dans, eh bien, notre passé, notre histoire, là où nous avons eu du succès, là où nous avons finalement, eh bien, nous avons vaincu certaines choses. Mais Jésus est très sérieux lorsqu'il nous donne ses paroles, parce que ça relève de quelque chose qui est autrement différent que ce qui peut arriver dans notre humanité, dans notre vie, toutes ces vicissitudes de l'existence, tout simplement. Donc c'est un privilège. C'est le privilège de la foi en Jésus-Christ. Si nous sommes là ce soir, nous ne sommes pas là pour autre chose que de parler de Jésus et de parler de sa parole. Ça, c'est essentiel et personne ne pourra démentir que le christianisme est avant tout fondé sur Jésus, sur ce qu'il nous enseignait, sur les paroles, sur ces actes d'amour que nous avons en lisant finalement l'Évangile et qui sont là pour nourrir, eh bien, notre confiance. En d'autres termes, c'est vivre ce que l'on croit réellement, c'est ça, voilà. Et c'est quelque chose qui nous est offert à notre exercice de chrétien, dans toutes les situations. Il y a des moments dans la vie où on pourrait dire que tout se passe bien, alors on les connaît, ces textes. Et on peut dire, ben voilà, j'apprécie parce qu'ils sont formidables, ils sont d'une grande élévation, on pourrait dire peut-être intellectuelle, je ne parlerai pas de philosophie, bien que il y ait quand même un certain aspect dans ces choses, mais c'est vraiment, non pas connaître, mais c'est vivre ce que nous connaissons, c'est-à-dire c'est mettre en pratique. Je voudrais en citer quelques-unes, et qui nous rappellent des grandes vérités, et vérités qui sont encore aussi pour nous. Dans l'évangile de Matthieu, je reviens à l'évangile de Matthieu en dehors des béatitudes que nous avons lues dans le sermon sur la montagne. Un jour, Jésus dira, « Heureux, pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Heureux. parce que Jésus a eu des adversaires, et des adversaires redoutables, voire même des ennemis, qui avaient une véritable inimitié contre Jésus. Et on les trouvait, ces adversaires, non pas parmi les gens du peuple, mais particulièrement parmi les gens de la religion israélite, ceux qui étaient élevés en position. Il y avait probablement dans la classe des sacrificateurs, il y avait les scribes, il y avait surtout les pharisiens, les sadducéens également. C'était des gens qui se réclamaient de Dieu, du Dieu d'Israël. Mais alors, quand ils ont vu Jésus arriver, je peux vous dire que c'était véritablement, ils l'ont considéré comme un ennemi. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont crucifié. C'est eux qui l'ont livré. Et Jésus dira, pour tous ceux qui, eh bien, voulaient le suivre, il dira, mais vous êtes heureux. Parce que je ne suis pas pour vous une occasion de chute. Pour certains, Jésus était un véritable scandale. Bon, quand on le voit rentrer dans le temple et bouleverser tout en disant « Vous avez fait la maison de mon père une maison de voleurs », je peux vous dire que ça faisait de la poussière. Hein. Et puis, ça dégageait une certaine inimitié, une certaine colère. Mais bon, voilà. Jésus a dit des paroles très dures à un moment donné que nous retrouvons dans l'évangile de Jean. Et il y a certains qui se sont dit « Ben, s'il parle comme ça, nous on ne le suit plus. Hein. » Ça, les paroles de Jésus étaient une occasion de chute. Et ce qui n'est pas, et ce qui peut nous permettre de surmonter finalement les occasions de chute, c'est notre foi en lui, en sachant que ce qu'il nous dit, c'est la vérité. Jésus n'était pas venu se faire une place au soleil, prendre une place religieuse en Israël. Non, il était venu pour sauver le monde. C'était autre chose. Et les paroles qu'il a dites, eh bien, avaient une véritable puissance, on peut dire ça. Et puis, il dira toujours dans l'Évangile, « Heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient ce que vous voyez, ce que nous, aujourd'hui, 2000 ans après, nous ne voyons pas. » Il y a eu des gens qui ont été privilégiés pendant ces 3 années de ministère de Jésus, lorsqu'il allait de ville en ville, et qu'il foulait les chemins de Palestine, et il y avait ses disciples, il y avait ses foules, parce qu'il nous a parlé de foule, hein, c'est au pluriel, qui venaient pour l'entendre, et il dira, mais vous êtes heureux. Vous êtes heureux parce que vos yeux ont vu. Ils ont, eh bien là, constaté. Et pourquoi, justement, il y avait cette parole de Jésus? Parce que Jésus faisait des miracles. Ressusciter les morts, ce qui n'est quand même pas moindre. Faire marcher les paralytiques, ouvrir les yeux des aveugles, faire entendre des sourds. Également, échanger l'eau en vin, multiplier les pains, et toutes sortes de choses. Et il dira, mais vous êtes heureux. Nous sommes, dans notre temps, de ceux qui croyons à la parole sans l'avoir vue. Eh oui, c'est ça, hein. Nous croyons sans preuve. Et c'est bien ça la nature de la foi. La foi, c'est pas de toucher, de sentir, de constater d'une manière intellectuelle ou avec nos calculs et notre logique. Mais c'est de croire une parole qui nous est donnée et de croire qu'elle est réelle encore pour nous aujourd'hui. Hein. Alors c'est pour ça qu'il dira, mais vos yeux, vous êtes heureux à cause de vos yeux. Vous avez vraiment touché du doigt ce que je suis, non pas un faiseur de miracles, mais le Fils de Dieu, tout simplement. Un peu plus loin, il dira « Heureux le serviteur vigilant et prudent, qui finalement, eh bien, satisfera son maître. » Là, il parlait de ses disciples, avec des paraboles comme il avait l'habitude de donner, et il dira « Mais si vous êtes vigilant, si vous êtes, eh bien, là, dans cette disposition intérieure de bien faire, et ça c'est vrai pour la vie spirituelle, mais c'est vrai également pour la vie à l'extérieur, hein, savoir faire et bien faire les choses. Alors il dira, vous êtes heureux, parce que vous avez accompli votre mission. C'est pas de faire des grandes choses, c'est pas de bouleverser le monde qui est important, c'est de faire ce que nous avons à faire, et Jésus y attachera finalement cette consolation, même si nous avons de la peine à le faire, eh bien vous êtes heureux. C'est un bonheur, en quelque sorte. Alors on passe dans Luc, qui nous est dit « Heureux ceux qui écoutent la parole ». Ce soir, vous êtes venus avec vos oreilles, parce qu'on ne peut pas s'en séparer. Maintenant, quelquefois, elles peuvent être bouchées. Mais une chose qui est certaine, c'est que vous entendez. Et Jésus vous dit ce soir, vous êtes heureux de ce que vous entendez. Moi, je m'appelle pas Jésus, hein. Je tiens à vous le dire. Mais je rapporte la parole de Jésus, c'est un bonheur. Vous savez, il y a des gens qui sont en recherche de la vérité, de la justice, de quelque chose d'autre que ce que le monde matériel peut nous donner. Et ça a été notre expérience, c'est peut-être votre expérience, mais toujours est-il qu'il y a quelque chose qui vous a réjoui à la suite d'une recherche, et de recherche au pluriel, où là, lorsque nous avons entendu parler de Jésus, lorsque nous avons lu particulièrement l'Évangile, ou lorsque quelqu'un nous a rendu témoignage de qui est Jésus, eh bien ça nous a réjoui le cœur, et ça nous a rendu heureux. Peut-être des larmes et des pleurs auparavant, dans de vaines, la recherche, dans toutes sortes de questionnements vains. Et puis là, nous entendons des choses simples, qui ne parlent pas seulement à notre intelligence, mais qui parlent à notre cœur. Alors Jésus dira, mais vous êtes heureux, hein? Écoutez et vivre, ça, c'est essentiel. Dans Jean, et ça fait partie justement de la parole que je disais tout à l'heure, ça concerne Thomas. Vous savez, Thomas dit, eh bien, si je ne vois les marques des clous dans ses mains et puis dans ses pieds, je ne croirai pas. Il était définitif, hein, mais il est en dépression là, à ce moment-là, hein, le pauvre Thomas. Vous connaissez l'histoire. Hein. Et Jésus dira, il se retournera à un moment donné, à la grande surprise de Thomas, de voir Jésus vivant, alors qu'il croyait qu'il était mort. Et il dira, mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ça, c'est pour nous ce soir. Nous, on n'a pas vu Jésus, hein, je peux pas vous dire. Hein, je voudrais peut-être que j'ai eu une révélation, le ciel s'est ouvert et Dieu m'a parlé. C'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Hein, je sais qu'il y en a qui ont fait l'expérience, mais c'est quand même assez rare. Hein. Et puis finalement, ça porterait l'attention sur l'homme et non pas sur Jésus. Et ça, c'est quelque chose de dangereux. Alors, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru sans voir. Parce que vous savez, et je le dis et je le répète souvent, les gens disent souvent, ils disent « quand je verrai, je croirai ». Eh bien ça, c'est faux. C'est un démenti que Jésus nous donne. Et qu'est-ce que nous dit la parole? Il nous dit « si tu crois, tu verras ». Mais si tu crois d'abord. Si tu crois d'abord. Donc, ça, c'est la foi pure, on pourrait dire. C'est pas nos sens qui nous motivent. J'ai entendu, j'ai vu, j'ai touché, donc je crois. Non. Il y a un sixième sens que Dieu veut développer en nous, c'est la foi. La foi est une disposition morale de notre cœur. C'est de croire tout simplement sans voir et de croire sur parole, sur sa parole. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même. C'est une question de conscience. Voilà, ça c'est dans l'épître aux Romains, l'épître de Paul. Heureux celui qui ne se condamne pas nous-mêmes. Vous savez qu'il y a une parole extraordinaire dans la Bible qui devrait rassurer le monde et tous les inquiets, tous les angoissés, tous les culpabilisés du monde. C'est ce que Paul écrit à un moment donné, il dira ces mots, « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». C'est certainement une des plus belles paroles de la Bible. Il n'y a plus de condamnation pour vous si vous croyez en Jésus-Christ. C'est fini. Alors après, ne vous accusez pas et ne revenez pas sur vos péchés. Si vous avez demandé pardon à Dieu, mais il les pardonne, et ça, il faut le croire. Vous allez me dire, j'ai pas de preuve. Eh bien, la preuve, moi, je vous la donne si vous voulez. C'est quand vous avez fait cette démarche et que vous avez la paix à l'intérieur de vous-même, c'est comme une joie qui vous envahit, c'est la joie de l'esprit. Et là, vous savez à ce moment-là que vos épaules sont déchargées. Et quand Paul dirait que celui qui a demandé pardon à Dieu, que celui qui est venu vers Jésus, celui qui reçoit le sacrifice de Jésus, qui accepte Jésus comme victime expiatoire, c'est-à-dire à sa place, alors à ce moment-là, il est heureux parce que il n'a plus à se condamner puisque Dieu lui a pardonné. C'est formidable. Vous savez, il n'y a pas de plus grande chose dans la vie que le pardon. Même le pardon des hommes. Hein. On se souvient quand on était petit enfant, garçon ou fille, « Oh, j'ai pas fait de grosses bêtises. J'en ai fait quelques-unes, fallait bien essayer de toute façon, pour voir comment ça fait. » Mais quelquefois, ça m'est arrivé. Et on n'est pas bien à l'intérieur. Tant qu'on n'a pas avoué, alors on sait bien que papa et maman, ils savent très bien, ils nous connaissent. Et jusqu'au moment où on dit, bah oui, c'est moi qui l'ai fait. Quel soulagement. Enfin, ils ne nous auraient pas envoyé en enfer, hein, nos parents. Mais toujours est-il, eh bien ça c'est la conscience, tout simplement. Il y a encore une autre parole que nous trouvons, et je reviens à Matthieu là. Tu es heureux, Simon, parce que ces choses que tu connais aujourd'hui, c'est pas la chair et le sang, c'est pas la nature humaine. C'est pas le monde qui te l'a révélé, mais c'est l'Esprit de mon Père qui est dans les cieux. Vous connaissez ce texte, dans Matthieu chapitre 16. Ouais. Parce que Matthieu avait dit sous l'inspiration de l'Esprit, alors que, voilà, il avait dit, mais tu es le Fils de Dieu, du Dieu vivant. Et Jésus lui dira, mais tu es heureux, Parce que finalement, c'est pas tes déductions humaines qui t'ont appelé, amené à dire que tu me reconnais comme le Messie d'Israël, le Sauveur des hommes, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers toi pour te convaincre que finalement, eh bien, ce que tu as dit, c'est une parole de vérité, mais une parole divine de vérité. Encore autre chose. Et puis, encore dans le Nouveau Testament, on peut ajouter dans le Livre des Actes, cette connaissance pratique, parce que vous savez savoir une chose. On peut savoir beaucoup de choses. On peut avoir beaucoup de choses dans notre tête. Notre intelligence et notre dimension cérébrale peut emmagasiner énormément. On oublie aussi, mais toujours est-il qu'il est dit dans le Livre des Actes, cette parole, « Vous êtes heureux si vous savez ces choses. » Alors, est-ce que vous les savez ce soir? Vu de votre enthousiasme, je vois que vous êtes très heureux. Oui, oui, c'est pour vous réveiller que je dis ça, parce qu'il est quand même assez tard. Mais c'est vrai, vous les savez. Vous les savez ou non? Eh ben voilà ce que j'attendais. Si vous les savez, ben vous êtes heureux. Et ça vous rend heureux de les savoir? Ou ça vous met dans un état de catastrophe en disant « Qu'est-ce qui va m'arriver? C'est terrible, terrible, terrible. C'est la chose la plus redoutable de ma vie. » Non. Vous êtes dans la tranquillité, vous êtes dans la paix, naturellement. Alors, ceci dit, j'aimerais lire encore un autre texte. On va le chercher dans l'Épître de Pierre, et on va alors encore un petit peu plus loin, parce que là, on va toucher à la nature même de l'espérance. Ouais, de l'espérance. On a parlé des choses de la vie, là. D'accord? Et on va aller encore un petit peu plus en avant. Alors, dans 1 Pierre chapitre 3, et verset 9, on va lire deux versets, ça sera amplement suffisant. J'ai sous les yeux cette parole, alors ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure, ça, bon, c'est d'accord. Mais il est dit, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, je m'arrête là. Si quelqu'un veut aimer la vie, je voudrais vous donner une autre traduction. Si quelqu'un veut voir des jours heureux, qui veut aimer la vie, je paraphrase naturellement, celui qui veut jouir et connaître le bonheur dans la vie, est-ce que ça fait partie de votre objectif? Ben oui, je pense que on n'est pas maso pour vouloir se faire du mal. Il y a peut-être des gens qui sont désespérés, mais quand même dans l'ensemble, on se nourrit tous les jours, on essaie de trouver le meilleur pour nous, pour nos enfants, etc., etc., pour les autres. Et il est bien dit, mais si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, parce qu'on revient toujours à la béatitude. Je vous ai dit que béatitude, ça voulait dire bonheur. Ça voulait dire, finalement, eh bien, ça peut se transmettre tout simplement par le mot, eh bien là, dans sa signification évangélique, heureux, heureux, béni, soit. Voilà, on peut le traduire de cette manière. Alors, ceci dit, j'aimerais justement que nous allions un petit peu plus loin. Bénissez, parce que Dieu va nous bénir. Il y a dans le livre de l'Apocalypse, figurez-vous, quelque chose d'assez intéressant que nous allons voir ensemble. Avant d'ouvrir ces béatitudes dans le livre de l'Apocalypse, je voudrais vous donner un profil général du livre de l'Apocalypse. Compliqué ce livre, C'est le dernier livre de la Bible. Alors, il a souvent été présenté comme un livre de terreur. Pour nous, les chrétiens, c'est un livre de délivrance et d'espoir et de réjouissance. Alors, comme quoi, tout le monde n'est pas du même avis. Mais en tous les cas, pour nous, nous n'appréhendons pas le livre de l'Apocalypse comme une terreur, au contraire. C'est un livre de béatitude, quelque part, pour ceux qui sont du beau côté, pour ceux qui ont opté et pris, finalement, l'option de Jésus comme sauveur et le Seigneur de leur vie. Donc, le livre de l'Apocalypse est un livre qui est basé, comme beaucoup de livres dans la Bible, sur le chiffre 7. Alors, je préfère de numérologie biblique, c'est pas la peine. Mais le chiffre 7 a une signification, c'est le chiffre de Dieu. Chiffre de Dieu, de la perfection et de la totalité. C'est-à-dire que c'est parfait. Quand vous trouvez les 7 et les multiples de 7, à travers l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, eh bien, il y a un sens tout à fait particulier. Quand vous ouvrez les premières pages de l'Apocalypse, chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, vous y voyez 7 églises. Vous y découvrez 7 messages. Donc, correspondant. Et il y a 7 promesses aux vainqueurs. Et les vainqueurs, c'est précisément ceux qui ont le caractère défini dans le sermon sur la montagne et dans les béatitudes. Il y a ensuite 7 sceaux. Et les sceaux, c'est la manifestation de la volonté divine d'arrêter. C'est-à-dire que le livre de l'Apocalypse, ça va être une page qui se tourne dans l'histoire de l'humanité pour recommencer un autre monde. C'est cela, donc les sceaux. Il y a 7 trompettes, vous l'avez lu. Vous en souvenez quand on avait fait l'étude complète? Oui, c'était la grosse tête. Mais c'est vrai que c'était quelque chose d'assez intéressant. Donc il y a 7 trompettes, et ce sont les avertissements sonalels, à la fois pour l'Église, qu'elle se tienne prête, parce que Jésus revient bientôt, et pour le monde, afin qu'il se convertisse naturellement. Et puis il y a les sept rôles principaux, il y a l'histoire de la femme, si vous en souvenez, il y a le fils, un fils dont il est parlé, il y a le dragon, il y a l'archange Michael, il y a la bête, le faux prophète, et il y a l'agneau qui est partout, donc 7 également. Il y a 7 coupes de l'exécution divine du jugement. Alors là, c'est pas pour l'Église, c'est pas pour vous, c'est pas pour les croyants, c'est pas pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ, c'est pour les autres. Et là, c'est certainement des moments assez pathétiques. Et puis il y a la Babylone également qui décrit le monde dans ce qu'elle est, avec des termes qui sont quand même assez précis et qui veulent dire ce que ça veut dire. Vous regarderez chapitres 17, 18 et 19, vous verrez ce que ça veut dire. Babylone, c'est la ville aux 7 collines. Et puis ensuite, il y a les 7 faits marquants dans le livre qui marquent la fin du mal, qui marquent la fin du monde, qui marquent la fin de ce monde d'iniquité, de violence, d'injustice, de crimes, de sang et de feu. Donc, les 7 faits marquants. Il y a le vainqueur qui s'appelle Jésus, avec son armée de vainqueurs, c'est-à-dire l'Église, les hommes et les femmes, quelle que soit leur dénomination et quelle que soit leur appellation. Ça n'a pas importance. L'essentiel, c'est d'être né de nouveau. C'est d'avoir fait cette expérience avec Jésus-Christ. Il y a le jugement de la bête, il y a le jugement du faux prophète, il y a le millénium, je rentre pas dans les détails, il y a le jugement du diable, il y a également le jugement des morts et de la mort, il y a les noces de l'agneau et la nouvelle Jérusalem. Ça, 7 faits principaux. Ceci dit, je voudrais maintenant justement que nous parlions des 7 béatitudes de l'Apocalypse. Ce ne sont pas que des jugements, vous allez voir, vous allez le constater. Alors, il y a dans le chapitre 1er, verset 3, mais bon, je vais vous donner une version dynamique de la Bible. Il est dit ceci, « Heureux celui qui lit ce livre, heureux ceux qui écoutent ce message prophétique et prennent au sérieux ce qui est écrit ici. » En d'autres termes, notre part, on sait tous lire, c'est de lire. C'est d'entendre, quand il est prêché, et c'est de garder, c'est-à-dire de conserver. Et il nous est dit que les temps sont proches. Donc il y a une interpellation à lever la tête et de dire « Jésus revient bientôt » et de garder à la fois ce qui est écrit, de l'écouter et de le conserver, et bien là au fond de notre cœur. Un peu plus loin, dans le livre de l'Apocalypse, il y a une autre béatitude, au chapitre 14, il est dit ceci « Heureux ceux qui, dès maintenant, meurent dans le service du Seigneur. » Alors, ça ne veut pas dire le martyr, seulement. Oui, il y a des gens qui, à travers les siècles, 2000 ans de christianisme, il y en a eu. Et il y en a encore aujourd'hui. Quand on prie pour l'Église persécutée, ça veut dire quelque chose. Et encore aujourd'hui, ce rejet, cette inimitié contre la vérité, contre Jésus. Et nous voyons, il nous est dit tout simplement, « Heureux ceux qui, dès maintenant, meurent dans le Seigneur. » Il y en a qui meurent après avoir accompli une mission. Une mission d'une manière ou d'une autre, qu'il ait été pasteur, qu'il ait été évangéliste, qu'il ait été enseignant, finalement, de la théologie biblique et autre chose. Et puis tous ceux qui servent les autres, d'une manière ou d'une autre, ça se décline. Eh bien, à travers peut-être même des œuvres bonnes, à travers tout ce que l'on peut faire pour les uns et pour les autres. Oui, nous dit l'Esprit, ils pourront se reposer de leurs durs efforts, car le bien qu'ils ont fait les accompagne. C'est la version, donc, moderne. Et oui, ça c'est aussi quelque chose que, quand nous sommes au Seigneur, et quand nous servons Dieu, d'une manière ou d'une autre, quel que ce soit matériel, que ce soit d'une façon spirituelle, morale et d'accompagnement, tout ce que vous voudrez, il nous est dit que notre notre tâche et nos œuvres ne seront jamais oubliées par Dieu. Non. On dit « j'ai pas fait grand-chose ». Mais si, ce que nous avons fait, nous l'avons fait. On ne l'a pas fait d'une manière ostentatoire pour être applaudi et puis être loué par les autres. Non, on l'a fait parce qu'on aime le Seigneur et on aime son œuvre. On aime finalement dire aux autres que Jésus, eh bien, les aime, que Jésus est venu leur pardonner, que Jésus est capable de les guérir et de faire toutes sortes. C'est servir le Seigneur, ça, naturellement. Si nous tournons quelques pages de l'Apocalypse, au chapitre 16, il nous est parlé de vigilance et, encore une fois de plus, de garder, conserver. Ça, c'est essentiel, naturellement. Et au verset donc, au chapitre 16, il est dit « Heureux celui qui reste éveillé, parce qu'on peut s'endormir, et garde ses vêtements pour ne pas aller nu et n'avoir pas la honte d'être vu ainsi. » Alors, traduction, parce que c'est une traduction un petit peu particulière, mais vous l'avez également dans votre Bible, hein, avec la version seconde traditionnelle. Et ça veut dire que, vous savez que quand Adam et Ève, parce que ça remonte à Apocalypse et la Genèse, hein, c'est les deux, hein, l'alpha et l'oméga. Hein. Mais il nous est dit que quand ils ont péché, la première chose, la première réaction, c'est qu'ils ont eu peur, ils se sont cachés parce qu'ils étaient nus. De quelle nudité il est question? Certainement celle qui nous vient à l'esprit, mais une nudité de l'âme, un vide, quelque chose qui fait que l'homme, eh bien, il a besoin d'être recouvert. Il a besoin d'être habillé, il a besoin d'être vêtu pour ne pas être vu dans sa nudité, tout simplement. Et moi, je pense que quand quelqu'un se convertit à Jésus-Christ, eh bien, c'est comme si il revêtait une vie nouvelle. Et il y a des paraboles sur ce sujet que nous trouvons, hein, la fameuse parabole des noces dans Matthieu. Eh bien, c'est ce que Jésus veut dire. Hein. Il nous a dit, mais qu'il reste éveillé. Et il éveille parce que nous pouvons nous endormir. Après 2000 ans de christianisme, on peut s'endormir. Après quelques années de conversion et de marche avec le Seigneur, on peut s'endormir. Parce que finalement, la flamme de notre premier amour, eh bien, s'éteint petit à petit si on ne la rallume pas. C'est comme un feu dans l'âtre. Eh bien, si vous y mettez pas du bois, à un moment donné, il n'y aura plus de lumière, il n'y aura plus de chaleur, et tout va finir en cendres. C'est pour ça qu'il faut être, bien justement, là, dans cet état, naturellement. Dans l'Apocalypse, chapitre 19 également, il est dit ceci. Il est parlé du bonheur et de la perspective de l'union avec Christ, cette union entre Christ et l'Église. Alors l'Église, je voudrais vous dire que c'est pas un bâtiment, hein. C'est pas comme ça. L'Église, c'est une identité morale avec des hommes et des femmes qui ont rencontré Jésus un jour, on ne naît pas chrétien, on le devient à un moment ou à un autre, et qui, finalement, eh bien, ont donné leur vie à Jésus, sans rentrer forcément dans les ordres, sans forcément se mettre dans un schéma classique religieux. Non, et c'est notre cœur à ce moment-là, c'est notre vie qui est donnée. Et dans ce chapitre, où il est question de cette union avec Christ, « Heureux ceux qui ont été invités au repas des noces de l'agneau, parce que ce sont les véritables paroles de Dieu. » Vous vous rendez compte? Vous l'avez reçu l'invitation? Papier glacé et tout ça. Hein? C'est bien d'aller aux noces. Hein? On se dit, voilà, on va passer une bonne journée. Et puis en principe, on rencontre des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Puis après, on se met à table, naturellement. C'est pas mal. Hein? C'est quand même les grandes fêtes de la vie, de l'existence des hommes. Hein? Une noce. Puis on se réjouit, naturellement, pour les mariés, voilà, hein, naturellement. Eh bien, il nous est dit que dans le ciel, il y aura des noces, les noces de l'agneau, qui rassembleront Jésus, qui est présenté comme le fiancé et l'époux, et puis l'Église, venant de toutes les sortes de catégories, des blancs, des noirs, des chinois, des français, quelques-uns, et puis de tout le monde, hein, parce que c'est pas une question raciale, hein, c'est, tout ça, ça explosera, il n'y aura plus rien du tout. Et ceux qui ont donné véritablement leur vie et leur cœur à Jésus-Christ. Et il y aura des noces dans le ciel, et des noces qui n'en finiront pas. Et ça ne coûtera rien. Voilà. Est-ce que vous avez revêtu le bel habit de noces, comme il nous est dit dans la parabole de Jésus, hein, vous savez? Celui qui refuse l'habit en disant « moi, je vais y aller en bleu de chauffe hein. », il rentre pas. Hein. Parce qu'on peut pas y rentrer, on peut pas rentrer dans le ciel avec nos fautes et nos péchés. Il faut demander pardon et Dieu va nous les pardonner. C'est formidable. Encore, il nous dirait « il faut que tu ailles au purgatoire, et puis il faut que tu paies le prix de tes fautes ». Mais c'est pas ça. Le sang de Jésus nous pardonne de tout péché, de toute iniquité, et sur l'instant. C'est ce qui nous rend heureux, n'est-ce pas? Tant moi, je vous dirai pas ça comme ça ce soir. Je vous dirai, attendez, hein, il faut faire ceci, il faut faire cela, etc., etc. Hein. Ouais, heureux ceux qui ont été invités. Vous savez qu'on va être tous à la fête. Hein. Ça va être quelque chose. Hein. Enfin, je vous dis pas, parce que je sais pas tout. Hein. Je sais pas tout, mais en tous les cas, la Bible nous parle de... C'est présenté ce royaume des cieux, il est présenté sous les auspices du bonheur et de la joie. Parce que une noce, c'est comme ça, hein, normalement. Encore un peu plus loin, dans Apocalypse chapitre 20, c'est une petite étude biblique hein, que l'on fait ce soir. Hein. Il est question de la première résurrection qui exclut la condamnation. Alors, il est dit ceci, « Heureux ceux qui ont part à la première résurrection, ils appartiennent à Dieu, ils régneront avec Christ. » Alors, je ne vais pas rentrer dans les subtilités, la chronologie du retour de Jésus-Christ, mais Jésus-Christ revient bientôt. On ne sait pas le jour ni l'heure. On va pas se dire, voilà, parce que tous ceux qui se sont essayés à la problématique, ils ont été confondus, parce qu'ils avaient annoncé les dates, vous savez. Et il y en a de temps en temps comme ça qui sortent des inepties de cette... Mais Jésus nous dit, ni le Fils, ni les anges ne connaissent le jour et l'heure. Si je vous dis que Jésus va revenir à minuit moins le quart ce soir, faut que je fasse vite, hein, pour que vous soyez chez vous, vous pouvez arriver à la valise. Hein. Non, non, ça ce sont des bêtises. Mais une chose qui est certaine, c'est pas le fait de savoir le moment, c'est d'être prêt soi-même, en tout temps, tout simplement. Et à ce moment-là, nous aurons part à la première résurrection. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de condamnation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Le monde vivra une deuxième mort. Première mort, la physique, puis une deuxième, autre chose. Mais pour nous, il n'y a rien. C'est fini. C'est-à-dire que nous arriverons dans la dimension du royaume des cieux, puisque le royaume de Dieu a été implanté dans notre cœur. C'est notre passeport et c'est notre visa pour rentrer finalement, eh bien, dans la félicité du ciel. C'est ça. C'est pour ça que Jésus dit, mais vous êtes heureux. Plus peur de la mort. C'est vrai que quand on y pense, c'est pas toujours très agréable pour nous-mêmes et pour ceux qui nous quittent. C'est vrai, c'est très déchirement affectif. Mais nous avons une espérance. J'ai eu l'occasion de faire tant et tant d'enterrements et je me dis, j'ai vu la différence entre un chrétien qui meurt en Jésus et puis, finalement, celui qui meurt sans conviction, sans assurance, la mort est quelque chose d'épouvantable. Nous n'avons pas peur. Heureux, un peu plus loin, ceux qui gardent les paroles de ce livre. Alors le livre, il est question de l'Apocalypse, mais il est question de tout ce que la Bible nous dit. La Bible est un livre qui est constitué de 66 livres. C'est une bibliothèque que vous avez sous le bras quand vous venez ici, vous rendez compte? Hein, c'est une bibliothèque. Et il y a deux grandes parties. Il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est l'histoire... finalement du peuple juif confronté avec la loi de Dieu. C'est fini, bien que la loi n'ait pas disparu. Maintenant, il y a le Nouveau Testament, c'est la grâce par la foi. Je ne mérite rien. Dans la loi, fallait mériter. Avec la loi, fallait mériter. Maintenant, je ne mérite rien puisque c'est Jésus qui a mérité mon salut. Donc j'ai juste simplement à croire. Alors, il est dit à ce moment-là, ben, tous ceux qui gardent les paroles sont heureux. Et si nous gardons finalement, eh bien, ce qu'il nous est dit, nous sommes passés d'un régime à un autre. Et aujourd'hui, depuis que Jésus est venu, nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, ça vient, c'est le don de Dieu. C'est ce que nous dit Paul, hein, dans Éphésiens. Je répète toujours la même chose, mais c'est bien de s'en souvenir. Puis, je termine. Toujours dans l'Apocalypse, ça sera la dernière proposition. Il est dit au chapitre 22, « Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, alors heureux qui lave ses vêtements parce qu'il a droit de manger de l'arbre de la vie et d'entrer dans les portes de la ville. » Vous savez que la première page de la Bible, il est question, les deux premières pages, il est question d'un livre, d'un arbre de vie. Il y a l'arbre de la vie, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève, ils ont goûté de l'autre. Dieu leur avait dit, vous pouvez manger de l'arbre de la vie. C'est l'arbre de l'immortalité, c'est l'arbre de l'éternité. Mais ils ont préféré avoir finalement, la curiosité et la tentation, la convoitise, parce qu'on leur avait menti, ils ont été trompés par le serpent. Alors, ils ont pris, finalement, ce qu'il ne fallait pas prendre. Et on comprend que toutes les générations sont porteuses d'un virus qui ne peut être guéri que par le sacrifice de Jésus. Tout simplement. Alors, laver ses vêtements, c'est véritablement croire que notre vie, elle était lavée par le sacrifice de Jésus. Et vous savez, mesdames, vous qui faites la lessive, vous lavez avec de l'eau. Et là, on est lavé avec du sang. Et le sang s'attache. Eh oui, quelle idée saugrenue, hein ? Ah, ça c'est la stratégie de Dieu. Nous sommes lavés non pas avec de l'eau, mais nous sommes lavés avec du sang. Parce qu'il a fallu, et le sang c'est quoi ? C'est quelqu'un payé à notre place. Parce que faire couler son sang, ou faire couler le sang de quelqu'un, c'est le mettre à mort. Et Jésus a été mis à mort sur la croix du calvaire. Pour que nous puissions être, moi je crois dans la force et la vertu du sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas une parole de superstition, hein. Quelquefois, on s'en est servi un peu dans nos milieux de cette manière, mais c'est pas ça, hein. Non, c'est parce que c'est un principe de foi qui régit ma vie. Et à ce moment-là, eh bien, lorsque nous savons que nous sommes pardonnés, que nous avons accepté Jésus, eh bien, nous pouvons manger tout à nouveau de ce livre de l'éternité, de ce livre de l'immortalité, de tout ce qui a été finalement, eh bien là, le côté mortel de cette humanité. Nous avons la vie et la vraie vie. Et je termine par cette parole que vous connaissez. Jésus nous dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Que Dieu nous bénisse et nous allons prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole. Nous croyons que cette parole, elle est dite, elle est écrite, elle est portée par les hommes. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'elle fait une œuvre qui est celle de l'Esprit dans nos cœurs et dans nos consciences, dans nos cœurs. Seigneur, je te demande de bénir cette parole pour que chacun d'entre nous se soit réuni dans ce lieu. Parce que nous n'avons pas voulu autre chose que de parler de Jésus-Christ, de parler de celui qui a été donné à l'humanité comme salut, comme sauveur, comme rédempteur. Alors nous voulons simplement, Père éternel, t'en bénir et te remercier. Tu nous dis heureux ceux qui écoutent la parole, heureux ceux qui lisent la parole, heureux ceux qui gardent la parole. C'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Tu nous l'as rappelé. Le ciel et la terre passeront, nous dit Jésus, mais mes paroles ne passeront point. Alors Seigneur, nous voulons te demander que maintenant tu passes dans les cœurs, tu passes dans nos vies, tu consolides, tu fortifies notre foi, ou tu découvres la foi peut-être dans le cœur de certains, pour qu'ils puissent comprendre qu'en effet, Seigneur, il n'y a que Jésus, simplement Jésus, pour nous sauver. Alors il n'y a plus de condamnation pour ceux qui mettent leur espérance, leur confiance, qui font foi à Jésus-Christ dans tout ce qu'il a accompli pour chacun, pour tous les hommes. Merci Seigneur. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.